Et si le procès le plus célèbre de l'histoire, enfin de l'histoire humaine, était en fait une parodie de justice totalement illégale, même selon les propres lois de ses juges, je veux dire.
C'est une excellente question, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui.
Ouais, parce que quand on pense aux grands récits de l'Antiquité, on a souvent cette image mentale très figée, un peu comme un vitrail d'église.
C'est ça, immobile et solennel.
Exactement. Les personnages semblent flotter dans une sorte de sérénité en attendant que le destin s'accomplisse. Mais dès qu'on gratte un peu la surface, ben on découvre un monde fait de corruption, de machination politique et d'une violence vraiment inouïe.
C'est le cœur même de notre exploration d'aujourd'hui.
Totalement. Et pour ça, on va se plonger dans les notes de cours du docteur Craig Kinner, particulièrement son analyse des chapitres 26 et 27 de l'Évangile selon Matthieu. Le but de notre mission, c'est d'extraire la chair et le sang de cette histoire pour voir comment ça fonctionnait vraiment au premier siècle.
Ouais, parce que l'enjeu de cette immersion, c'est de retirer ce vernis purement spirituel pour observer la mécanique brute de l'époque. Jérusalem, sous occupation romaine, c'est une véritable poudrière.
Une étincelle et tout explose.
Exactement. Rien ne se passe dans un vide. Chaque action, chaque parole prononcée en public s'inscrit dans une logique politique implacable. C'est un environnement où, le moindre faux pas peut déclencher une intervention militaire sanglante de la part de Rome.
Et c'est ça qui oblige à revoir complètement la perception de la fin de Jésus. On a souvent tendance à voir ça comme un drame qui s'abat sur lui, un accident tragique, quoi. Or, les sources montrent plutôt une collision très calculée.
C'est tout à fait ça. Le docteur Kinner souligne bien que Jésus connaissait sa fin imminente, et pas seulement par une quelconque prescience divine ou un don prophétique, mais par pure logique géopolitique.
Bah oui, parce qu'entrer dans le temple, renverser les tables des changeurs, bloquer le commerce.
Et défier publiquement l'aristocratie sacerdotale au moment précis où la ville est blindée de monde pour la Pâque, c'est un suicide politique.
C'est signer son arrêt de mort en lettres capitales.
Absolument. D'ailleurs, il n'y avait que deux issues possibles après un acte de sédition pareil contre le centre névralgique de l'économie. C'était soit lever une armée rebelle, soit fuir la région la nuit même.
Ce qu'il n'a pas fait.
Non, il ne l'a pas fait. Donc, sans armée et sans fuite, l'exécution devient une certitude mathématique. Et l'histoire romaine nous offre un point de comparaison fascinant sur ce point.
Ah bon, lequel?
Quelques décennies plus tard, un autre homme, un certain Joshua ben Anania, s'est mis à prophétiser la destruction du temple. Les autorités religieuses l'ont arrêté, ils l'ont livré au gouverneur romain, et il a été flagellé jusqu'à ce que ses os soient visibles, selon l'historien Joseph.
Oh mon Dieu.
Mais la chute de l'histoire, c'est qu'il a été relâché.
Attends, c'est pas logique. Il fait fondamentalement la même chose, il subit une torture abominable, mais l'Empire romain le laisse repartir vivant.
C'est là toute la différence. Joshua était considéré comme un fou inoffensif.
Ah, parce qu'il était seul.
Exactement. Le nombre change tout. Joshua était juste un excentrique qui criait dans le désert. Jésus, lui, draine des foules entières. Donc il est perçu comme une menace structurelle.
Une étincelle capable d'embraser une ville surpeuplée. Pour l'élite, c'est un danger d'État, pas un illuminé.
C'est exactement ça.
C'est fou. En fait, c'est un peu comme une partie d'échecs. Un joueur avance une pièce maîtresse au centre de l'échiquier, tout en sachant pertinemment que ce mouvement va forcer l'adversaire à le mettre échec et mat 3 coups plus tard.
C'est une super analogie. Le compte à rebours est lancé.
Ouais, et c'est ce qui rend les réactions de l'entourage tellement fascinantes. L'étau se resserre, et soudain la notion de valeur devient le thème central des jours qui précèdent l'arrestation.
On le voit de manière hyper flagrante avec cette femme qui s'approche avec un flacon d'albâtre scellé.
Le fameux parfum de nard.
Voilà, du nard d'Inde pur. Faut savoir que le nard était importé des montagnes de l'Himalaya. C'était un produit de luxe inouï. On parle de l'équivalent du salaire d'une année entière pour un ouvrier.
Une année entière de salaire dans un seul petit flacon.
Oui. Et très souvent, ce genre de flacon constituait un héritage familial. C'était un peu l'assurance-vie d'une femme pour son avenir. Et là, elle brise le sceau, ou même le flacon lui-même, et verse la totalité sur lui.
C'est un geste d'une extravagance totale. Et ça contraste tellement avec la radinoï hypocrite des disciples masculins dans le récit. Ils se mettent à hurler au gaspillage, genre on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres.
Ouais, ils se cachent derrière une fausse vertu caritative.
C'est ça, parce qu'ils sont juste incapables de lire la pièce mondainte. Ils voient pas que l'exécution est imminente. Et ce qui est incroyable, c'est la promesse que Jésus fait à cette femme à ce moment-là. Il dit que l'histoire se souviendra d'elle, partout où ce récit sera partagé.
Et cette promesse, quand on y réfléchit, c'est un accomplissement mémoriel qui défie la raison.
Comment ça ?
Eh bien, dans l'Antiquité, la mémoire, c'était l'obsession suprême. Le grand poète romain Ovide, par exemple, écrivait avec une immense fierté que son œuvre garantirait l'immortalité de son nom.
D'accord, il voulait marquer l'histoire ?
Sauf qu'aujourd'hui, qui connaît Ovide ? Les spécialistes de l'Antiquité et les étudiants en lettres. Mais l'acte de cette femme anonyme, brisant un flacon d'albâtre, est connu par des milliards d'individus à travers les siècles.
Waouh ! C'est le contraste parfait. Et la transition est assez brutale quand on passe de ce don inestimable à l'attitude de Judas juste après.
Ah oui, c'est le jour et la nuit.
On a d'un côté un héritage brisé par pure dévotion, et de l'autre, un des plus proches alliés qui va négocier la vie de son maître, pour très exactement 30 pièces d'argent. Et d'après nos sources, ce chiffre n'a rien d'aléatoire, non ?
Loin de là, ouais. Dans le livre de l'Exode, qui a été rédigé des siècles auparavant, 30 pièces d'argent, c'est très précisément le tarif légal d'indemnisation qu'un maître doit recevoir si l'un de ses esclaves est tué accidentellement par un animal.
Ah, purée. Donc l'insulte est double, en fait.
Exactement.
Non seulement il le vend, mais il m'y colle l'étiquette de prix la plus dégradante possible. La question que ça pose, c'est l'intention de Judas. Est-ce que c'est un mec purement cynique qui a besoin de liquidités pour fuir la région, ou est-ce qu'il choisit consciemment ce montant pour dire à l'élite « Regardez, je l'évalue au prix du bétail ».
Alors, la psychologie exacte de Judas, ça reste l'un des grands mystères. Mais du point de vue de la construction du récit, pour un lecteur du 1er siècle, le message est limpide.
L'évaluation financière traduit une dévaluation sociale totale.
C'est tout à fait ça. Celui que les foules acclamaient quelques jours plus tôt est ravalé au rang de marchandise remplaçable.
Et ce rapport au statut social et à la valeur des individus, ça dicte entièrement la façon dont ils vont partager le fameux dernier repas à la scène. Faut d'ailleurs qu'on détruise un mythe visuel tenace pour notre public.
Le tableau de Léonard de Vinci, je parie.
Bingo. L'immense majorité des gens voient cette scène à travers ce tableau. Une longue table rectangulaire, des chaises, tout le monde assis sagement du même côté pour faire face au peintre en quelque sorte.
C'est vrai que c'est un triomphe artistique, mais c'est un véritable désastre historique. La réalité des banquets festifs en Judée à cette époque était fortement influencée par la culture gréco-romaine. Ça imposait l'usage du triclinium.
Le triclinium, c'est-à-dire ?
On ne s'asseyait jamais sur des chaises. Les convives s'allongeaient sur les coussins ou des espèces de divans disposés en forme de U.
Et la posture est super spécifique, non ?
Il fallait s'allonger sur le flanc gauche, on appuie sur le coude pour garder la main droite libre et piocher dans les plats au centre. Voilà. Et la conséquence anatomique directe de cette disposition en U, c'est que les pieds de tous les invités pointaient vers l'extérieur du U, loin de la nourriture.
Ce qui éclaire pas mal de trucs. Parce que si on a l'image de Vinci en tête, l'idée qu'une femme vienne pleurer et laver les pieds de Jésus au beau milieu du dîner, c'est absurde. Elle aurait dû ramper sous la nappe entre les chaises.
C'est ça. Alors que dans un triclinium, elle se tient simplement debout derrière les convives, dans l'espace de circulation sans déranger personne. Pareil pour la mention du disciple appuyé sur la poitrine de Jésus.
Ah oui, allongé côte à côte en diagonale, la tête de l'un est naturellement à la hauteur du torse de l'autre.
Exactement. C'est purement logique quand on a la bonne géométrie.
Et au-delà de l'architecture, c'est la hiérarchie de ces banquets qui est fascinante. À cette époque, prenons Corinthe par exemple, la place à table dictait littéralement la valeur humaine de la personne. C'est l'ancêtre du carré VIP.
Tout à fait. Les plus riches, aux places d'honneur, avaient le meilleur vin. Et les gens de statut inférieur, aux extrémités, mangeaient les restes.
Et donc, le fait que Jésus occupe la place d'honneur, mais se lève pour laver les pieds de ses propres disciples, c'est un dynamitage en règle de ce carré VIP. C'est une subversion totale de l'ordre social.
Une subversion qui culmine vraiment avec le pain. La tradition a posé au chef de famille de lever le pain en disant « Ceci est le pain de l'affliction que nos ancêtres ont mangé en quittant l'Égypte ».
Un pont mémoriel avec le passé.
Oui. Sauf qu'en modifiant cette formule antique pour l'appliquer à son propre corps, il annonce que l'affliction n'est plus un vieux souvenir de 1300 ans, c'est un événement imminent.
Et on sait que cet événement ne tarde pas à frapper. Le confort du repas vole en éclats quelques heures plus tard, dans l'obscurité du jardin de Gethsémané. Et là, l'ironie est hyper cruelle.
Tu penses au sommeil des disciples ?
Ouais. La tradition de la nuit de la Pâque voulait que les familles veillent très tard pour discuter de rédemption. C'était la nuit d'éveil par excellence. Et pourtant, face à l'angoisse viscérale de Jésus, ses proches s'effondrent de sommeil.
Cette défaillance physique annonce clairement l'effondrement moral qui va suivre. L'arrestation se passe dans la pénombre et elle commence par le baiser de Judas.
Un baiser qui n'a rien d'affectueux dans ce contexte, finalement.
Non, c'est purement tactique. Le terme grec employé, phileo, désigne un baiser de salutation banal entre un élève et son rabbin. Sauf qu'ici, l'affection est militarisée. Le but de Judas, c'est d'identifier formellement la cible dans la nuit pour la cohorte, sans alerter Jésus en le pointant du doigt.
Ce qui lui aurait laissé une chance de fuir dans les arbres.
Voilà.
Et ça provoque une panique chaotique. Pierre sort une lame, il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. Franchement, dans le noir, avec l'adrénaline, il est évident que Pierre visait pas une petite cible de 5 cm. Il visait la tête pour tuer, et le serviteur a juste esquivé.
C'est très probable, oui. Mais Jésus stoppe l'escalade immédiatement. Il rappelle qu'il pourrait faire appel à, je cite, « 12 légions d'anges ». Et ça, c'est pas juste une métaphore poétique.
Ah non, non. Faut voir ce qu'est une légion au 1er siècle.
Exactement. Une légion complète comptait environ 6000 fantassins lourdement armés. Mais le détail crucial, c'est qu'à l'époque de Pilate, l'Empire romain n'avait même pas une seule légion complète stationnée en Judée.
Juste quelques cohortes, c'est ça?
Ouais, juste de quoi maintenir l'ordre. Donc, évoquer 12 légions d'anges, c'est parler d'une force de frappe de 72 000 êtres. C'est l'évocation d'une puissance capable d'annihiler l'intégralité de l'armée impériale, pas juste la garnison locale.
C'est énorme. Mais j'ai une objection purement logique sur ce récit de Gethsémané. Si Jésus prie à l'écart en disant « éloigne de moi cette coupe » et que la totalité de son cercle rapproché est en train de ronfler profondément à plusieurs mètres de là, qui tient la plume? Comment ces mots exacts ont pu survivre?
Ah, c'est l'une des grandes énigmes pour les spécialistes. Il y a généralement deux hypothèses. La première est physiologique. Le sommeil des disciples n'était pas un coma profond. Ils somnolaient, se réveillaient en sursaut avec le froid, entendaient des bribes de cette prière répétée et se rendormaient.
D'accord, un sommeil fragmenté. Et la deuxième?
L'autre hypothèse suggère une transmission rétrospective. Les informations intimes auraient été communiquées par Jésus lui-même après sa résurrection, pendant les 40 jours d'enseignement avec les premiers chrétiens.
Intéressant. En tout cas, quelle que soit la source, la suite marque le début d'une machination judiciaire terrifiante. Jésus est traîné devant le Sanhédrin, le Conseil suprême. Et c'est un vrai tribunal fantoche, un kangaroo court, comme on dit, où la sentence est écrite bien avant le procès.
C'est un effondrement complet de l'état de droit. Si on compare avec les idéaux de la jurisprudence juive, codifiés plus tard dans la Mishnah, les violations s'empilent.
Procès de nuit, c'est interdit.
Totalement. Et c'est aussi légal de tenir un procès le jour d'une fête sainte. L'audience ne doit jamais se dérouler dans la résidence privée du grand prêtre. Et pire, la loi exigeait que les faux témoins démasqués subissent la peine qu'ils tentaient de faire infliger.
Et là, les témoins se contredisent lamentablement, mais le grand prêtre s'en fiche complètement.
Ouais. Ce grand prêtre, Caïphe, c'est un stratège redoutable. Faut se rappeler qu'il a conservé son poste pendant 18 ans sous l'œil paranoïaque des Romains.
Faut un talent fou pour la manipulation politique pour survivre aussi longtemps à ce poste.
C'est clair. Et là, il orchestre un moment de théâtre brillant. Jésus finit par briser le silence en combinant le psaume 110 et le chapitre 7 de Daniel, se déclarant messie cosmique. Caïphe saisit la balle au bon et déchire ses vêtements.
Ce qui coûte une fortune au passage les étoffes sacerdotales.
Oui. Mais c'est un acte de deuil ritualisé face au blasphème. Mais son vrai coup de génie, c'est la suite.
Parce qu'il sait que Ponce Pilate et les Romains se moquent éperdument des querelles théologiques. Le blasphème, c'est pas un crime pour Rome. Donc l'astuce de Caïphe, c'est la traduction de l'accusation. Il transforme un délit religieux en haute trahison.
Exactement. Se déclarer messie devant des juifs, c'est religieux. Mais traduire ça par roi devant les Romains,
c'est de la sédition pure.
S'autoproclamer roi, c'est un défi à l'empereur. Il package le problème dans le seul langage que Rome écoute, la menace contre la sécurité de l'État.
C'est machiavélique. Et pendant que ça magouille à l'intérieur, à l'extérieur, dans la cour, les partisans de Jésus craquent, avec deux réactions opposées pour Pierre et Judas. Pierre essaie de s'infiltrer incognito, mais il oublie un détail fatal, son accent.
Ah oui, la géographie linguistique de l'époque. Les habitants de la Galilée avaient une façon très gutturale de prononcer certaines consonnes, très différente des Judéens. Dès que Pierre parle, les servantes le repèrent.
Et le chant du coq le fait fondre en larmes.
Faut noter d'ailleurs que le chant du coq, c'était l'expression militaire pour désigner la fin de la troisième garde, de la nuit romaine.
Il réalise sa lâcheté, mais il survit, alors que Judas choisit une autre voie. Dévoré par le remords d'avoir livré un sang innocent, il se pend. Et ce choix de la pendaison est super chargé culturellement.
Très chargé.
Chez les Romains, se jeter sur son épée après une défaite, c'était honorable. Mais dans la tradition juive, la pendaison était la dégradation suprême du corps. Ça rappelait immédiatement Ahitophel, le traître de l'Ancien Testament qui s'était pendu.
Judas devient l'archétype du traître damné. Et au passage, ça souligne l'hypocrisie des prêtres. Judas jette les 30 pièces dans le temple et les prêtres décrètent avec un sérieux glaçant qu'on ne peut pas mettre cet argent du sang dans le trésor sacré.
Organiser un meurtre, pas de souci. Mais mélanger de la petite monnaie impure avec les fonds du temple, ça jamais.
C'est le légalisme poussé à la folie. Et il y a ce fil rouge de la terreur, de la culpabilité. Tout le monde veut se laver les mains de ce sang. Ça rappelle la loi du Deutéronome 21, où les anciens d'une ville devaient sacrifier une génisse et se laver les mains si un cadavre était trouvé près de chez eux.
Ouais, nos mains n'ont pas versé ce sang.
De Judas au prêtre jusqu'à Pilate qui va littéralement demander une bassine d'eau. C'est une épidémie de déni de responsabilité. Ce qui nous amène à Ponce Pilate, justement.
Pilate est loin de l'image de l'arbitre impartial qu'on s'imagine parfois. Des sources comme Philon d'Alexandrie le décrivent comme un tyran brutal. Mais lors de ce procès, il est paralysé par la lâcheté.
Il me fait penser à ces cadres intermédiaires d'aujourd'hui, tu sais. Très arrogant avec les employés, mais terrifié par la direction générale. Il sacrifie la vérité pour éviter le risque politique.
C'est ça. Pilate devait sa nomination à Séjan, le préfet de Rome, qui gérait l'Empire à la place d'un Tibère paranoïaque retiré à Capri. La position de Séjan vacillait. Si une émeute éclatait à Jérusalem pendant la Pâque, Tibère aurait fait exécuter Pilate sans hésiter.
Donc, pour apaiser la foule, il lance la machine de broyage romaine. Et il faut bien comprendre la différence entre la flagellation juive et la romaine. La loi juive limitait à 39 coups pour ne pas tuer. Mais les Romains n'avaient aucune limite.
L'instrument, le flagellum, était fait pour déchiqueter. Des lanières de cuir lestées de billes de plomb et de verre tranchant. Les os et les intestins étaient souvent exposés. Beaucoup ne survivaient même pas jusqu'à la croix.
Et sur ce corps en lambeaux, les soldats font une parodie cruelle de royauté. Un vieux manteau militaire délavé pour mimer la pourpre impériale. Et cette fameuse couronne d'épines, on l'imagine souvent comme un anneau de ronce, mais l'archéologie dit autre chose.
Ouais. Il est très probable qu'ils aient utilisé des épines d'acanthe. Et pas juste pour faire mal, mais tressées avec les épines tournées vers l'extérieur.
Pour imiter les couronnes rayonnantes des rois hellénistiques.
Exactement. Une caricature macabre. Les épines enfoncées dans le cuir chevelu provoquaient des saignements massifs, détruisant toute dignité humaine avant l'exécution.
L'horreur absolue. Et ensuite, c'est la marche vers l'exécution. Là aussi, la logistique romaine casse l'image classique du condamné qui porte une croix entière de 3 mètres de haut sur son dos.
Porter une croix entière, ça ferait plus de 100 kilos. Le condamné ne portait que la poutre horizontale, le patibulum, qui faisait dans les 30 à 40 kilos. Le pieu vertical, le pallus, attendait déjà sur place.
Et ce détail du patibulum nous offre une conclusion d'une puissance folle. Jésus s'effondre sous le poids et les soldats réquisitionnent un passant, Simon de Cyrène, pour le porter.
C'est vrai, un parfait inconnu.
Et quand on y réfléchit, c'est vertigineux pour clore cette analyse. Pendant des mois, Jésus disait à ses disciples « Prenez votre croix et suivez-moi ». C'était la métaphore absolue. Mais au moment où ça devient une réalité physique, où il y a littéralement un bout de bois ensanglanté à porter, il n'y a plus personne. Ses amis ont disparu.
C'est le passant forcé qui accomplit la métaphore.
C'est ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur le fossé entre nos déclarations de loyauté théorique et notre courage face à la réalité terrifiante du présent ? Je trouve que c'est sur ce miroir très humain que s'achève parfaitement notre immersion d'aujourd'hui.